Radio Verte.
Radio Verte.
Radio Verte.
La radio du centre de loisirs.
Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Verte, la radio des centres de loisirs d'Aigueperse et Aubia.
Nous sommes Camille,
Nolan
et Ethan.
Nous sommes heureux de vous accueillir. Avec nous autour de ce plateau radio, Angélique Mangon, journaliste, qui a eu l'immense joie de travailler avec nous cet été. Bonjour Angélique.
Bonjour les garçons, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous vous avons préparé une émission très très spéciale, enregistrée en direct et en public ici, à l'accueil de loisirs d'Aigueperse.
Une émission unique en son genre qui conclut un projet mené pendant tout le mois de juillet. Encadré par Angélique, nous, les 8-11 ans, avons travaillé comme de vrais journalistes.
Carnet et micro en main, nous avons appris toutes les ficelles du métier. Comment poser des questions, comment préparer une interview, mais aussi comment prendre des photos.
Puis nous sommes allés sur le terrain rencontrer des hommes et des femmes qui connaissent bien notre territoire ou qui travaillent plus ou moins en lien avec la nature. Et nous leur avons posé des questions.
D'Aigueperse à Aubia, en passant par Persignat et Chaptuza, nous avons tendu notre micro à des agriculteurs, des cueilleurs, des commerçants, des historiens, des artistes et des retraités.
Chers auditeurs, préparez-vous à écouter dans un instant le fruit de cet incroyable travail d'équipe. Vous êtes prêts?
Alors, préparez vos oreilles, décollage immédiat.
Radio Verte.
Radio Verte.
Radio Verte.
La radio du centre de loisirs.
Alors les garçons, on décolle, bon d'accord, mais où est-ce qu'on va?
Bonne question Angélique, pour l'instant nous allons pas loin, il ne faudrait pas se fatiguer trop vite. Chers auditeurs, venez, nous sortons du centre de loisirs, contournons la cour et pénétrons dans une colocation un peu particulière, la résidence senior.
Ici, nous avons rencontré Michel Véchard et Daniel Vincent, des retraités nés à la fin des années 30. Ils ont connu la Seconde Guerre mondiale et les évolutions de la société, des témoignages passionnants enregistrés pour vous par Juliette et Lorenzo.
Bonjour Michel et Daniel.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Chers auditeurs, ouvrez bien grand vos oreilles. Michel et Daniel, quel souvenir de la Seconde Guerre mondiale vous a le plus marqué?
Ça m'a tellement traumatisée que j'étais jeune et gamine et il y a des choses qui m'ont vraiment perturbée. J'ai un souvenir des Allemands, des bombardements, de la guerre, de tout ça. Ça m'a... Excusez-moi, mais je ne peux pas en dire plus.
Oui, je comprends Daniel, je comprends son émotion, parce que j'ai vécu aussi cette période, et, cette sauvagerie gratuite qui mène là où on sait. Beaucoup de morts, beaucoup de... Et j'arrêterai parce que j'ai pas envie de parler de sauvageries qui ont eu lieu.
Vous étiez en territoire occupé. Que faisiez-vous quand il y avait des alertes?
Dans les alertes, on l'entendait parce que les sirènes se mettaient à sonner au-dessus des maisons. Et chacun se précipitait où il pouvait... Moi, c'était principalement dans le métro, mais certains avaient descendaient dans les caves, dans les pour se mettre à l'abri le mieux possible, dans des tranchées, voilà. Je ne sais pas, Daniel, peut-être elle a des endroits plus particuliers.
Ben oui, quand on entendait l'alerte, on savait qu'il y avait un bombardement, alors on avait peur, alors on essayait de se mettre à l'abri. Et c'était pas toujours possible. Et d'ailleurs, on a été un moment sans aller à l'école, parce que l'école, ils nous descendaient dans des caves pour éviter les bombes. Mais après, c'était plus possible. Il fallait qu'on reste chez nous avec nos parents.
Comment avez-vous compris que ce qui se passait était grave?
Rien que voir le nombre d'Allemands qu'il y avait, On était petits, mais on comprenait quand même qu'il y avait quelque chose d'important qui se passait. Et puis les alertes et tout, c'était toutes des choses qu'on n'avait pas l'habitude. On était enfants, et quand on est enfant, on pense qu'à s'amuser, tout ça. Et on voyait tout le monde triste, tout le monde courir, tout le monde... C'était la panique.
Comment faisiez-vous pour manger ?
Bien, pour manger, il y avait un système qui était mis en place avec des tickets de rationnement. Et ben, il fallait encore que les commerçants aient la contrepartie des tickets. Parce qu'il ne suffisait pas d'avoir des tickets, il fallait qu'il y ait de la marchandise dans les rayons.
La première fois que j'ai mangé du chocolat, j'étais déjà... C'était bien après la guerre. J'étais le chocolat, je me rappelle, une petite barre. Et c'était tellement petit... Que ma maman elle m'a dit, il faut la couper en petits morceaux pour que tu en aies un morceau tous les jours. Et on ne savait pas ce que c'était qu'une orange. On était privés de choses qu'on ne s'imaginait pas que ça pouvait exister.
Pouvez-vous nous parler de l'arrivée des Américains ?
J'ai vu les Américains arriver à Nevers, vers les ponts de Loire. Par les fenêtres, ils nous jetaient des trucs. Et vous savez pas ce que c'était, c'était des chewing-gums.
Moi, j'ai rencontré des Américains, j'étais en Normandie avec ma mère. Et ils m'ont donné une orange pour la première fois que je connaissais pas du tout. Je savais pas ce que c'était.
Ensuite, dans les années 70, que s'est-il passé ?
On arrive dans des années qui sont plus agréables. C'est le début d'une explosion des voitures, du modernisme. Les gens sont un peu plus aisés, ils s'habillent plus facilement, commence à prendre des vacances aussi plus facilement.
Une grande évolution de tout un tas de choses qu'on avait été privés pendant longtemps.
Quelle émotion avez-vous ressenti pendant ce changement de société ?
On a été heureux. On avait une sens de liberté qu'on avait été privés pendant un moment. On sentait détendu. Et il y avait du progrès dans tout. Dans l'alimentation, dans tout ce qu'on avait été privé. Alors, pour nous, c'était formidable.
Que pensez-vous de la société aujourd'hui ?
Moi, je suis assez soucieux pour la société d'aujourd'hui. J'espère que ceux qui dirigent, mais j'y crois pas beaucoup, hein, ceux qui dirigent seront un peu moins fous que tous ceux qui ont pris le pouvoir par la force à certaines époques. Ça, je le déplore.
Avec le progrès qu'on a eu tellement rapide que je voudrais que ça puisse continuer pour élever nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants dans le bonheur et dans la paix.
Merci Daniel et Michel d'avoir répondu à nos questions. Chers auditeurs, vous pouvez maintenant fermer vos oreilles. À bientôt sur la radio du Centre de loisirs.
Waouh, c'est bouleversant, n'est-ce pas ?
Oui, en effet, ces témoignages sont très précieux. Et pour continuer sur cette lancée, je vous propose de prendre tout de suite la direction d'Obia afin de visiter le village avec un passionné d'histoire. Ethan, est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît ?
Oui, chers auditeurs, nous allons rester encore un peu dans le passé pour découvrir Obia en compagnie de Jean-Claude Brun, un retraité qui a écrit plusieurs revues sur le village.
Il est interviewé par Yanis, Loane, Quentin, Gabin et Mathis.
Bonjour Jean-Claude Brun.
Bonjour à vous les enfants.
Merci d'avoir accepté notre invitation et merci de nous faire visiter Obia. Nous allons vous poser quelques questions.
Pourquoi vous êtes-vous intéressé à l'histoire d'Obia ?
Ben parce que je suis né dans le village d'Obia. J'ai fait ma scolarité dans l'école où vous êtes actuellement. Et j'ai toujours été passionné par l'histoire du village et de ses habitants.
Pourquoi l'école s'appelle-t-elle Maurice Genet ?
Elle s'appelle Maurice Genet parce qu'elle porte le nom de l'instituteur de l'époque 39-45 qui a été assassiné par les Allemands le 27 août 1944 à Aigueperse avec son compagnon d'armes Jean Hénorn. Ils faisaient partie de la résistance et ils ont été pris par les Allemands et fusillés à Aigueperse.
Est-ce qu'il y avait plus de commerce à Obia ? Pourquoi ?
Il y avait beaucoup plus de commerce à Obia, il y avait au moins deux boulangeries, il y avait une boucherie, il y avait plusieurs épiceries, il y avait des bars, il y avait même un maréchal ferrant qui avait des pompes à essence et qui vendait l'essence et le gasoil. Un marchand de tabac aussi, c'était une dame qui tenait le poste de buraliste. Et maintenant, il n'y a plus aucun commerce dans le village.
Est-ce qu'il y avait plus de vie dans le village ?
Alors, il y avait beaucoup plus de vie parce que les gens se rencontraient beaucoup plus souvent. Le soir, à la veillée, par exemple, à l'époque, il n'y avait pas la télévision. Donc, les gens se réunissaient le soir pour casser les noix, trier les noix, discuter ensemble autour d'un feu de bois. Mais ça n'existe plus actuellement.
Quand vous étiez jeune, la vie était-elle plus dure ? Et si oui, pourquoi ?
Alors la vie était peut-être plus dure, il n'y avait pas tout le progrès qu'on a actuellement, il n'y avait pas les frigidaires, il n'y avait pas les machines à laver pour les dames, aussi bien pour la vaisselle que pour le linge. Comme vous l'avez remarqué, les dames allaient faire la lessive à la fontaine du village, chose qui n'existe plus aujourd'hui.
Quand vous étiez enfant, est-ce que le centre de loisirs existait ?
Ah, j'ai pas souvenir. Il n'y avait pas de centre de loisirs à l'époque. Moi, quand je venais à l'école, le jour de repos, c'était le jeudi, c'était pas le mercredi. Et on allait à l'école du matin. Je crois qu'on prenait à 9h, on finissait à 17h le soir, avec une petite coupure à midi. On allait à l'école le samedi matin, mais le centre de loisirs, il n'y en avait pas.
Quand vous étiez jeune, à quoi servait la fontaine ?
Alors la fontaine, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle servait d'une part aux dames pour venir laver leur linge. C'était un point d'eau pour les habitants parce qu'à l'époque, il n'y avait pas l'eau sur l'évier. Ils se approvisionnaient en eau uniquement avec la fontaine et les puits. Et à l'entour de la fontaine, il y avait ce qu'on appelle un four banal. C'est-à-dire un petit bâtiment avec à l'intérieur un four où les gens du village venaient faire cuire leur pain.
Merci d'avoir répondu à nos questions. À bientôt sur la radio du Centre de loisirs.
Merci à vous d'avoir entendu toutes mes explications.
Chers auditeurs, retour à présent en 2022. Si Jean-Claude Brun raconte les changements que nous traversons à travers le patrimoine, William Marotte, lui, observe le monde évoluer à travers les plantes qu'il cueille dans la nature.
Oui, Angélique, en effet, nous restons à Obia pour découvrir le métier de cet amoureux des plantes, président d'un groupement de cueilleurs, la Sicarapam.
Écoutez William Marotte au micro de Zoé, Juliane et Chloé.
Bonjour William Marotte.
Bonjour.
Merci de nous recevoir à la Sicarapam.
De rien, c'est avec plaisir.
Nous allons vous poser quelques questions.
En quoi consisterait votre métier ?
Alors, moi, je suis cueilleur de plantes médicinales. Ça veut dire que je vais cueillir des plantes dans la nature pour faire des tisanes principalement ou d'autres médicaments à base de plantes.
Pourquoi faites-vous ce métier ?
Parce que j'aime bien les plantes et parce que j'aime bien travailler dehors.
Qu'est-ce qui vous passionne le plus ?
Les plantes.
Connaissez-vous les noms de toutes les 250 plantes ?
Pas toutes, mais une grosse partie. Mais après,
vous pouvez nous en donner des exemples ?
En français ou en latin ?
En français.
Du coup, on a l'aubépine, le millepertuis, le bouillon blanc, le sureau, la verveine citronnée, la menthe poivrée, la menthe verte, la camomille romaine, le cassis, le bouleau, le frêne, l'églantier. Bon, je pense qu'après, on va peut-être pas citer les 250.
Oui, merci. Quelle plante aimez-vous le plus ?
Le millepertuis et l'ortie. J'aime bien les cueillir.
Est-ce qu'il y a des plantes qui portent bonheur ou malheur ?
Non, il y a des plantes qui piquent. Alors du coup, celles-ci, elles sont pas très agréables à ramasser. Mais non, après, il n'y a pas de plantes qui portent bonheur ou malheur.
Est-ce qu'il y a des plantes qui ont disparu ou sont en voie de disparition ?
Oui, on se rend compte qu'il y a des plantes qui ont trop été cueillies ou alors qui ont été enlevées par les agriculteurs. Et il y a l'arnica et la gentiane qui sont en train petit à petit de bien diminuer.
Quels produits faites-vous avec les plantes ?
Principalement de la tisane. On fait aussi un peu d'huile pour de la cosmétique, du traitement pour les plantes, pour les animaux, de l'homéopathie.
Comment voyez-vous le futur de votre métier ?
Du coup, il faut qu'on aille de plus en plus vite parce que les plantes, elles poussent beaucoup plus tôt que d'habitude et elles poussent beaucoup plus rapidement parce qu'il fait très chaud. Et il y a certaines plantes qui vont disparaître parce qu'il fait trop chaud.
Merci William Marotte d'avoir répondu à toutes nos questions. À bientôt sur la radio des centres de loisirs.
C'était un plaisir de discuter avec vous.
Chers auditeurs, j'espère que vous allez bien et que vous n'êtes pas endormis. Nolan, les auditeurs sont toujours là ?
Oui Camille, ils ont l'air très attentifs.
Très bien, parfait. Avant de poursuivre ce voyage au cœur de la communauté de communes Plaine-Limagne, je vous propose une petite pause musicale, histoire de souffler un peu.
Excellente idée, qu'allons-nous écouter ?
Eh bien, pour ce premier interlude, je vous propose d'écouter Down Your Get Up de Mini Vandals. A tout de suite sur Radio Verte.
Radio Verte.
Radio Verte.
Radio Verte.
La radio des centres de loisirs.
Vous écoutez toujours Radio Verte, la radio des centres de loisirs d'Aigues-Perse et Aubia. Il est 17h43. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette émission très spéciale enregistrée en direct et en public. Alors les garçons, qui allons-nous rencontrer maintenant ?
Direction Persigna, à deux pas d'Obia, où Morgan, Eva, Tessa et Corentin ont rencontré Géraldine Perillo, une épicière qui prend soin de la planète. Écoutez.
Bonjour Géraldine Perillo. Merci d'avoir accepté notre invitation et de nous recevoir dans votre épicerie.
Bonjour, merci à vous d'être venue.
Nous allons vous poser quelques questions.
Qu'est-ce qu'une épicerie zéro déchet ?
Alors une épicerie zéro déchet, c'est une épicerie où vous allez consommer en utilisant vos propres contenants ou des contenants à votre disposition pour éviter de fabriquer des déchets.
Pourquoi avez-vous ouvert une épicerie zéro déchet ?
J'ai ouvert une épicerie zéro déchet parce que c'était quelque chose qui était important pour moi de consommer comme ça. Il n'y en avait pas à l'endroit où nous avons décidé d'habiter et je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée d'en proposer aux autres.
Que vendez-vous dans votre épicerie ?
Dans l'épicerie, je vends de tout. On peut trouver à la fois des légumineuses, des céréales, des pâtes, du riz, mais aussi des huiles, des vinaigres. On a de la cosmétique, on a des produits d'entretien. On a également des accessoires zéro déchet. Et puis tout ce qui va être plus traditionnel, de la viande, du fromage, des légumes, du pain, des épices, etc.
D'où viennent les produits que vous vendez ?
Alors la plupart des produits que je vends, j'essaie de les trouver en local. Donc au plus près de chez nous, en circuit court, pour faire travailler les gens qui habitent près de chez nous et qui travaillent bien et dur. Donc entre Rion et puis Ghana. Et ce que je n'ai pas trouvé en équivalent dans notre secteur, ce sont des produits qui sont bio, qui viennent de la plupart des produits français.
Pour vous, pourquoi est-il important de réduire les déchets ?
Je pense que c'est important de réduire les déchets pour l'avenir de nos enfants qui, eux, vont avoir la chance d'avoir la planète qu'on va leur laisser. Donc le but étant de leur laisser la plus belle planète pour qu'ils puissent vivre au mieux. Et puis, c'est important que chacun se fasse sa part des choses en diminuant des choses dont on n'a pas besoin.
Depuis combien de temps votre épicerie existe ?
Elle existe depuis 7 mois. On a ouvert le magasin à partir du mi-décembre de cette année.
Quel est votre ancien métier ?
Avant, donc l'année dernière, j'étais maîtresse.
Merci Géraldine Perriot d'avoir répondu à nos questions. À bientôt sur la radio du Centre de Loisirs.
Tu as dû retenir, Angélique, que dans la boutique de Géraldine Perriot, il y a principalement des produits locaux qui viennent des environs.
Oui, Camille, tout à fait.
Eh bien, parmi ces produits, on retrouve les fromages de Manon Roche, éleveuse de chèvres et productrice de fromages installée dans le même village de Persigna. Une interview signée CM, Mélisia, Faustine et Elisa.
Bonjour Manon Roche.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation et de nous recevoir dans votre ferme.
Oui, pas de souci, c'est avec plaisir.
Nous allons vous poser quelques questions. Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?
J'ai choisi ce métier parce que depuis toute petite, j'adore les animaux. Et donc du coup, je me suis vite, à force de faire des stages, je me suis vite dirigée vers cette branche.
Qu'est-ce qui vous passionne dans ce métier ?
Ce qui me passionne, c'est d'être déjà au contact des animaux, de travailler en extérieur et puis d'être mon propre patron. Donc c'est moi qui fais mon organisation, puis de pouvoir valoriser tout ce que je fais, donc du début donc de la traite jusqu'à la fin, jusqu'à la vente des fromages.
Depuis combien de temps avez-vous votre ferme ?
Alors je me suis installée en 2018.
Pourquoi avez-vous choisi les chèvres plutôt qu'un autre animal ?
Alors, pourquoi les chèvres ? Alors, j'avais fait plusieurs stages en vaches, brebis. Alors, les vaches, je trouvais ça trop gros. J'en avais un peu peur. Et puis, les chèvres, c'est des animaux qui sont affectueux. Donc, elles viennent bien faire des câlins, choses comme ça. Puis, j'aime bien le fromage de chèvre aussi. Donc, ça fait partie des choses qui ont fait que je suis plus partie sur ces animaux-là.
Avez-vous donné un nom à vos chèvres ?
Ah oui, alors elles ont toutes un nom. Et alors en fonction des années, on leur donne un prénom avec une lettre différente.
Est-ce que vous traillez vos chèvres tous les jours ?
Alors oui, c'est tous les jours, donc de début mars à fin décembre.
Pourquoi faites-vous le fromage seulement à une période de l'année ?
Alors les fromages, ils sont faits uniquement de mars à décembre parce qu'il y a une période, donc c'est la fin de la gestation des chèvres, où il y a 2 mois où elles sont taries, elles font pas de lait pour pouvoir se reposer et finir d'attendre leur bébé et pouvoir faire leur petit début février.
Avez-vous d'autres animaux ?
Alors en plus des chèvres, donc j'ai des chevaux, donc c'est une poulinière de la race Auvergne, et j'ai 2 chiens qui m'aident pour emmener les chèvres à la traite les matins.
Comment voyez-vous l'avenir de ce métier ?
Plutôt bien. On est de plus en plus de jeunes à s'installer, donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête. L'entreprise est toute jeune, donc continuant à travailler, il n'y a pas de raison non plus que ça s'arrête.
Merci Madame Roche d'avoir répondu à nos questions.
À bientôt sur la radio du Centre de Loisirs.
Merci.
Des chèvres, nous pensons maintenant aux vaches. Si Manon Roche en a un peu peur, Jérôme Duron, lui, les adore.
Direction Aubia, où cet agriculteur élève des vaches charolaises. Il est interviewé par Ethan Chanteloup et Mathis.
Bonjour Jérôme Duron.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons vous poser quelques questions. Quels animaux élevez-vous et combien en avez-vous ?
J'ai des vaches de race charolaise, j'ai une centaine de têtes.
Jusqu'à quel âge élevez-vous les vaches ?
Elles partent à différents âges. Le plus jeune est à moins de 2 ans et les plus vieilles à plus de 10 ans.
Que cultivez-vous ?
Du blé, du maïs, du tournesol et de la luzerne et des prairies.
Pourquoi avez-vous planté des arbres ?
J'aime bien les arbres et je trouve ça joli, donc j'ai planté des arbres.
Quelle variété d'arbres avez-vous planté ?
De toutes sortes, des chênes, des sapins et différentes variétés de chênes, de sapins.
Pourquoi êtes-vous devenu agriculteur ?
Parce que j'aime bien ce métier, j'aime bien être dehors et je me sens quand même libre.
Quelles études avez-vous fait ?
J'en ai pas fait beaucoup, j'ai été jusqu'au bac pro.
Qu'est-ce qui vous passionne le plus dans votre métier ?
Je dirais tout ce qui est manuel, être dehors, C'est ce que je préfère le mieux.
Qu'est-ce qui vous passionne le moins ?
Les papiers. La bureaucratie. J'aime pas ça.
Quels sont les animaux nuisibles à vol qui alvoculture ?
Pucerons et on pourrait rajouter les limaces à certains moments.
Pour vous, qu'est-ce que l'agriculteur raisonné ?
C'est de faire attention à ce qu'on met, d'en mettre un minimum.
Pourriez-vous passer à l'agriculture bio ?
Non, parce que j'y aime pas. Voilà.
Nourrissez-vous votre famille avec ce que vous produisez ?
Indirectement, oui, parce que le blé, en partie, j'en ai une partie qui va chez Jacquet. Mes vaches, on en tue pour nous.
Merci Jérôme Durand d'avoir répondu à nos questions.
C'est moi qui vous remercie de votre visite, ce fut un plaisir.
Au revoir à tous et à bientôt sur la radio du Centre de Loisirs.
Chers auditeurs, j'espère que vous allez toujours bien. Pour animer la suite de cette émission, nous changeons de présentateur. Un grand merci et bravo à Camille, Nolan et Ethan, qui cèdent maintenant leur micro à Tessa, Faustine, Iliana et Mathis. Bonjour les journalistes, bienvenue dans ce studio.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour Angélique et bonjour à toutes et toutes celles et ceux qui nous écoutent. Nous sommes heureux de partager ce moment avec vous.
C'est bientôt l'heure d'une nouvelle pause musicale, mais avant cela, nous recevons en direct sur notre plateau un invité très très spécial, puisque c'est grâce à lui si nous sommes ici aujourd'hui.
Bonjour Maxime Dutrieux.
Bonjour.
Vous êtes le directeur des centres de loisirs d'Aigueperse et d'Aubia, et avec la journaliste Angélique Mangon, ici présente, vous avez imaginé le projet que nous avons réalisé cet été.
Prêt à répondre à nos questions ?
Eh bien, je vais essayer.
Pourquoi avez-vous voulu développer ce projet au centre de loisirs ?
Alors, moi, ça faisait longtemps que j'avais envie de mettre en place un projet radio au sein de mes structures. Et j'aime beaucoup mettre en place des projets en direction du territoire pour que les enfants puissent découvrir l'environnement où ils habitent et puis aussi montrer aux acteurs du territoire qu'il y a des enfants sur le territoire. Donc, c'était une façon de réunir mes deux idées.
Que pensez-vous que cela nous a apporté ?
Quand je vois aujourd'hui le résultat, je vois les enfants sur le plateau capables de mener une émission de radio en direct devant du public, je pense que ça vous a apporté de la confiance en soi. Vous avez compris du coup toute la démarche et vous avez quand même eu le courage d'aller interviewer tous ces acteurs. Donc voilà, je suis très fier.
L'émission n'est pas terminée, mais déjà, que pensez-vous du résultat ?
Je crois que je viens de le dire, je suis très fier. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi pro. Et je suis vraiment fier, voilà, ça fait 3 fois que je le dis, je pense que ça s'est senti.
Merci Maxime Dutrieux d'avoir répondu à nos questions. C'est l'heure d'une nouvelle pause musicale. Alors pareil, vous pouvez faire 3 fois le tour de votre chaise et aller vous aérer les neurones. On vous laisse avec Glace de Anno Domini et on se retrouve juste après.
Radio Vert.
Radio Vert.
Radio Vert.
La radio du centre de loisirs.
Vous écoutez toujours Radio Verte, la radio des centres de loisirs d'Aigueperse et Aubia. Il est 17h58, bientôt 18h. Merci d'être avec nous pour cette émission très spéciale enregistrée en direct et en public. Si je ne me trompe pas, nous parlons encore un petit peu d'animaux, n'est-ce pas, Iliana ?
Oui, Angélique, c'est bien ça. Après les chèvres et les vaches, nous allons maintenant voir des chevaux, des poules, un cochon, etc. Autant d'animaux abandonnés qui sont recueillis par Jessica Jeffrey au Jardin des animaux à Chaptuza.
Une interview préparée avec l'aide de Rita et réalisée par Camille et Léana.
Bonjour, Jessica Jeffrey.
Bonjour les enfants. Bonjour tout le monde.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, nous allons vous poser des questions. Alors, répondez bien, s'il vous plaît. Quels animaux y a-t-il dans votre ferme ?
Au jour d'aujourd'hui, j'ai des moutons, des poneys, chevaux, beaucoup de volailles, donc des poules, dindons, oies. C'est essentiellement des animaux de ferme, des lapins, donc du lapin nain autant que du lapin de ferme, des cochons d'Inde, des chats, des chiens. Et c'est eu arrivé qu'on ait des chèvres. Alors, actuellement, on n'en a pas, mais c'est eu arrivé qu'on en ait. Ah, j'ai un petit cochon aussi.
Combien d'animaux avez-vous ?
À peu près 80.
Pourquoi avez-vous décidé de recueillir ces animaux ?
Par passion, tout simplement. Comme tous les enfants, on a des rêves, on aime les animaux. Et puis quand on arrive à concrétiser, c'est merveilleux. J'ai réussi à acheter une maison sur un terrain de 3 hectares. Et au fur et à mesure, forcément, j'ai voulu mettre des animaux. Donc j'en ai pris un, deux. Et puis j'ai fait un sauvetage, 2 sauvetages, 3 sauvetages. Et je me suis vite rendu compte que financièrement, c'était compliqué. Autant d'en accueillir plus que de les assumer. De ce fait, j'ai pensé monter l'association car je travaillais déjà en partenariat avec des associations de protection animale qui sont dans le coin en Auvergne pour être famille d'accueil. Et j'ai décidé donc de faire famille d'accueil officiellement et en même temps d'avoir un but associatif, c'est-à-dire de recevoir des familles, des enfants et de me déplacer dans les EHPAD, dans les crèches, dans les centres de loisirs et au maximum que je peux dans les manifestations pour pouvoir faire des activités et des animations autour des animaux pour sensibiliser le public au respect de l'animal et de la nature.
D'où viennent les animaux ?
Les animaux viennent de particuliers et d'élevage. Ce sont des animaux qui sont issus de sauvetage, donc soit d'abandon, soit de maltraitance. Donc il se peut qu'on en récupère en très mauvais état. Et là, c'est beaucoup de soins vétérinaires, c'est beaucoup d'attention, beaucoup d'amour, beaucoup de passion pour pouvoir justement les sortir de la galère dont ils étaient hein, et les remettre un petit peu en état pour pouvoir ensuite soit les faire adopter, soit les garder ici pour faire des animations avec les enfants.
Est-ce que vous recevez de l'aide pour acheter la nourriture ?
Oui, nous avons des dons, donc des personnes qui perdent leurs animaux, qui ne savent pas quoi faire des aliments et des litières, viennent nous les donner. On fait également des collectes, donc ce qu'on appelle collecte de croquettes. Mais moi, dans mon cas de figure, je n'ai pas que besoin de croquettes. Donc il y a un petit peu des aliments rongeurs, aliments volailles, un petit peu de tout. Dans les supermarchés, hypermarchés, et dans les petits magasins, dans la mesure du possible, on a beaucoup de dons.
Combien de temps gardez-vous les animaux ?
Quelques jours à un an, voire plus, ça dépend. Ça dépend comment le public est touché, si l'animal est adulte, la couleur, l'espèce. Il y a beaucoup de choses qui freinent. Un chat noir, par exemple, va être beaucoup moins adopté qu'un petit chat qui va être d'une autre couleur, ce qui est bien dommage. Parce que le chat noir a une réputation de porter malheur, alors que pas du tout, hein, c'est juste une histoire de couleur de pelage. Donc les animaux qui sont un petit peu plus pénalisés par leur aspect physique, souvent restent plus longtemps, voire tout le temps.
Est-ce que vous faites des activités avec certains animaux ?
Oui, beaucoup d'activités. Je fais énormément d'animations. Je me déplace dans les EHPAD avec tout ce qui est rongeurs, volailles et même des fois un peu plus gros animaux. J'emmène poneys, petits cochons et moutons. Dans les crèches, dans les centres de loisirs et aussi et beaucoup même sur place ici au jardin. On reçoit beaucoup de familles, beaucoup de centres.
Quels sont vos animaux préférés ?
Alors, mon animal préféré, c'est le cheval. Tout par-delà, mais j'aime tous les animaux. J'aime tous les animaux et puis il ne faut pas faire de différence quand on se lance dans quelque chose comme ça. Il faut tous les aimer.
Merci Jessica Geffry d'avoir répondu à nos questions.
De rien les enfants, vous revenez quand vous voulez.
À bientôt sur la radio du Centre de loisirs. Passez une bonne journée.
C'est l'heure maintenant de notre interview sportive.
Eh oui, une émission de radio sans sport, ce n'est pas une vraie émission.
Au programme ce soir, de la marche, du tennis, mais surtout du canoë-kayak. Un sport plus dangereux qu'on ne l'imagine, vous allez l'entendre.
C'est Odette Flouret, notre voisine retraitée de la résidence senior et grande sportive, qui nous en parle au micro de Juliette et Lorenzo.
Bonjour Odette.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Chers auditeurs, c'est parti. Ouvrez bien grand vos oreilles. Odette, quel sport avez-vous pratiqué ?
Canoë-kayak, tennis, golf,
mais surtout canoë-kayak.
Pourquoi aimez-vous autant le sport ?
Je suis bien incapable de le dire parce que j'ai besoin de bouger, j'ai toujours eu besoin de bouger. Je suis malheureuse ici, je ne peux plus rien faire.
Et pourquoi aimez-vous les sports en pleine nature ?
Parce que c'est agréable de pagayer sur une rivière avec des grandes montagnes de chaque côté, avec tout ce qu'on peut imaginer. C'est sauvage, c'est très agréable.
Pendant combien d'années avez-vous pratiqué ce sport ?
5 ans à peu près.
Quelle sensation avez-vous ressentie ?
La sensation qu'on n'aime rien du tout par rapport à la rivière qui vous embarque.
Vous vous êtes blessé ?
Oh, je me suis fait 3 côtes, mais enfin, c'est pas grave. 3 côtes sur un rocher, on avait dessalé. C'est se chavirer du bateau, c'est-à-dire le bateau se retourne et vous tombez à l'eau. Voilà, c'est ce qu'on appelle dessaler.
Avez-vous fait des compétitions et remporté des médailles ?
J'ai fait le championnat de France où je suis arrivée première. J'ai fait le championnat du monde en Allemagne de l'Est où je suis arrivée 5e.
Merci Odette d'avoir répondu à nos questions. Chers auditeurs, vous pouvez maintenant fermer vos oreilles. À bientôt sur la radio du Centre de loisirs.
Impressionnante, cette Odette.
Oui, c'est sûr. Et sans transition, c'est l'heure maintenant de la rubrique artistique et nous allons parler aujourd'hui de photographie et plus précisément de photographie d'art.
Alissa et Liès ont interviewé Patrick Mindeau, un photographe passionné de noir et blanc qui est venu partager ses connaissances.
Bonjour Patrick Mindeau.
Bonjour.
Depuis combien de temps êtes-vous passionné de photo ?
Je suis passionné depuis beaucoup d'années, mais c'est à la retraite que j'ai commencé à m'intéresser à la photo d'art.
Pourquoi êtes-vous passionné de photographie ?
La photographie me permet d'interpréter et de montrer des situations, des images différentes de la vie courante.
Pourquoi travaillez-vous en noir et blanc ?
Je travaille particulièrement en noir et blanc parce que ça me permet d'éclairer les sujets que je veux montrer sous un certain angle.
À quelle thématique vous intéressez-vous ?
D'une part, je m'intéresse à tout ce qui est architecture, le bois, le minéral, la nature en général, elle est très inspirante.
Où prenez-vous les photos ?
Les photos que je prends et que je montre actuellement sont plutôt des photos du bord de mer.
Prenez-vous aussi des photos en couleur ?
Il m'arrive aussi de prendre des photos couleur, mais je n'expose pas ces photos. Je ne désespère pas un jour de montrer des séries couleur, mais je suis en train de rechercher actuellement la forme et la couleur que je veux montrer.
Comment construisez-vous une série de photos ?
Une série de photos est assez complexe parce qu'elle montre une technique, elle montre un savoir-faire et elle montre aussi une idée générale sur ce que l'on veut montrer. Ce qu'on appelle une série, ça peut commencer à un diptyque, 2 photos, triptyque, 3, mais elle peut aussi être de 6 photos, elle peut être de 12 photos. Ce qui est important, c'est bien de montrer une suite d'un sujet, de traiter un sujet, à la fois dans les mêmes techniques, dans la même composition, dans la même idée. On essaye de raconter une histoire, mais il faut que chacune des photos puisse aussi elle-même raconter son histoire. Voilà comment on construit une série.
Quel est le but de vos photos ?
Le but des photos est d'abord de m'étonner moi-même, c'est-à-dire de dire, tiens, j'aimerais bien montrer, mettons, un sujet, les vagues, mais est-ce qu'il faut montrer les vagues que tout le monde voit, les grandes vagues qui sont sur les phares et autres ? C'est pas ce qui m'intéressait. Par contre, de montrer les vagues qui sont communes sur les côtes bretonnes, quand la mer arrive, et ce sont ce qu'on appelle des rouleaux, là, on montre effectivement la différence qu'il y a entre ces rouleaux, la hauteur de la mer, le vent s'il y en a, et donc on voit ce qu'on appelle la turbidité, c'est un mot scientifique, qui permet d'éclairer les mouvements de l'eau dans la vague. Et c'est ce qui m'intéressait de montrer.
Quel est le message que vous voulez faire passer à travers vos photos ?
Il n'y a pas à proprement de message. Il y a simplement une intention artistique qui veut qu'au travers des photographies, elle pose à la fois une question au photographe, il y répond, mais lorsque les visiteurs viennent voir cette exposition, effectivement, je leur explique quel est le domaine de cette exposition, mais chacun des spectateurs doit se faire sa propre idée, se fait sa propre construction intellectuelle.
Arrive-t-il que le public voit autre chose que vous, vous voyez ?
Oui, il arrive très souvent que le public voit autre chose. Et c'est ce qui est important. Je n'impose rien. Je montre effectivement par rapport à ce que moi je ressens, mais je préfère, parce que chaque photo a un petit texte en dessous de la photo qui donne une idée de ce qui apparaît sur la photo. Il y a un petit message. Et à partir de là, on peut discuter effectivement de l'intérêt de la photographie, de son contenu, de sa technique, de son rendu. Et c'est là qu'est ce qui est intéressant, c'est le contact avec le public. J'ai fait des photographies justement dans l'intérêt de montrer autre chose que ce qui est visible du point de vue du quotidien, pour qu'effectivement on puisse discuter de ces photographies. Sinon, si nous voyons toujours, tous les jours, la même chose et qu'on en fait une photographie, il n'y a plus d'intérêt ni de questions à se poser.
Merci Patrick Mando d'avoir répondu à nos questions.
Eh bien, merci d'être venu m'interroger.
À bientôt sur la radio du Centre de loisirs.
Passionnante cette interview, n'est-ce pas ? Mais qu'est-ce que Patrick Mando a bien pu penser de cette expérience ?
Nous allons lui demander puisqu'il est le deuxième invité de notre émission.
Bonjour Patrick Mando, bienvenue dans notre studio.
Bonjour.
C'est la première fois que vous êtes été interrogé par des apprentis journalistes.
Oui, c'est la première fois que je suis interrogé par des journalistes, pas seulement des apprentis.
Pourquoi avez-vous accepté de participer à ce projet ?
Eh bien, l'important dans la photographie, c'est de partager, de montrer des visions personnelles, de communiquer avec les jeunes pour qu'effectivement ils puissent connaître tout ce qui peut se faire dans les techniques de l'art, pas seulement dans la peinture. Donc il était intéressant pour moi effectivement d'être interrogé. Ça me permet aussi à moi de me reposer aussi certaines questions sur la photographie.
Qu'avez-vous pensé de cette expérience ?
Ah, c'est très enrichissant parce que, arrivé chez moi, j'ai repensé à toutes les questions qui m'étaient posées et ça me permet pour de prochaines expositions essayer d'être peut-être plus performant, de changer un peu ma vision, de voir ce que le public était intéressé. C'est toujours passionnant.
Merci beaucoup Patrick Mando d'avoir répondu à nos questions.
C'est bientôt la fin de notre émission de radio très très spéciale. Alors avant de nous quitter, j'aimerais à mon tour poser quelques questions aux apprentis journalistes. Est-ce que vous êtes prêts ?
Oui.
Alors Mathis, est-ce que tu peux te rapprocher un petit peu plus de ton micro pour nous dire qu'est-ce que tu as pensé du projet ?
Que c'était bien d'aller interviewer des gens.
Et toi Iliana, qu'est-ce qui t'a le plus plu dans ce projet ?
Quand on a interrogé les gens et quand ils nous ont dit ce qu'ils ont fait.
Et Tessa, qu'est-ce qui t'a semblé le plus difficile ?
De parler devant tout le monde.
C'est vrai ? Et oui. Toi Faustine ?
Comme Tessa.
Ok, merci.
Et toi Angélique, on aimerait aussi savoir ce que tu as pensé de notre collaboration.
Moi j'ai beaucoup aimé travailler avec vous parce que c'était super. On a quand même réussi en pas beaucoup de temps à faire plein de belles interviews, à aller rencontrer plein de gens et aujourd'hui à enregistrer cette émission comme ça avec ces petits bugs, mais sans bugs ça serait pas rigolo. Et franchement c'est quand même hyper chouette tout ce qu'on a fait ensemble. Du coup merci à vous sept d'avoir animé cette émission avec beaucoup de talent. Bravo à tous les autres enfants qui ont aussi participé à ce projet, qui ne sont pas forcément là aujourd'hui, mais qui ont œuvré pour la préparation des interviews. Sancho, Lucie, Maël, Gabin, Chloé, Rita, Marie-Lou et tous les autres dont les prénoms sont inscrits sur l'affiche qui est au début de l'exposition, que je vous invite d'ailleurs à aller voir après. Merci également aux animatrices Claire, Delphine, Laura pour leur implication. Merci aussi à Maxime et Amandine, directeurs et référentes des centres de loisirs d'Aigues-Perses et Aubia, ainsi qu'à toute l'équipe de la communauté de communes Plaine-Limagne pour m'avoir accordé leur confiance dans la réalisation de ce projet. Et surtout, merci à vous tous, Jessica, Patrick, Jérôme, William, Jean-Claude, Manon, Géraldine, sans oublier Odette, Michel et Daniel, d'avoir pris le temps de nous recevoir et de répondre à nos questions. Et merci à Mathis qui a assuré la réalisation technique de cette émission, qui sera à retrouver bientôt sur le site de la communauté de communes Plaine-Limagne, ainsi que sur mon site sur la route de la Pachamama.com. Et avant de nous quitter, j'ai une petite surprise pour tout le monde.
Tu rappuies pas là, c'est bon, ça tourne.
Non, ça tourne pas.
Tu regardes là.
Ah oui.
Allez, c'est reparti.
Bienvenue sur la radio du centre de loisirs. Je m'appelle... Non, c'est la mauvaise feuille.
C'est bon ?
Allez, Kebab, pousse-toi. C'est bon ? Tu vois, ça tourne.
On commence, vas-y.
Bonjour, Jean-Claude Brun. Merci d'avoir accepté notre...
Bonjour à tous.
Tu ne fais pas le coup la prochaine fois. Mais du coup, juste toi, tu vas l'enregistrer, tu vas le faire passer à la radio.
Bravo.
Radio Verte.
Radio Verte.
Radio Verte.
La radio du centre de loisirs.
Alors les enfants, je vous laisse le dernier mot.
À bientôt sur la radio du centre de loisirs.
Radio Verte.
Radio Verte.
Radio Verte.
La radio du centre de loisirs.